Eh bien, nous allons maintenant vous présenter les nouveaux appels à projets 2018, avec cette année une spécificité. Pendant que je parle, je vais demander aux nouveaux partenaires sur des appels à projets thématiques de me rejoindre sur scène, de se tasser sur les chaises présentes. Vous savez, les objectifs de tous les appels à projets de la FIRA, quelle que soit la thématique ou qu'ils soient généraux, sont toujours les mêmes. C'est pour un meilleur accès aux droits des personnes handicapées, c'est pour une meilleure autonomie, c'est pour favoriser la liberté de choix, l'indépendance, la non-discrimination, etc. Mais cette année, la nouveauté est qu'il y a des thématiques spécifiques, donc un appel à projet général, et puis 4 appels à projets thématiques qui s'affichent derrière moi et que vous pouvez lire. Axel Kahn, vous l'avez dit tout à l'heure en ouverture de cette rencontre, un petit peu le sens que vous donniez à ces appels à projets et aux futurs projets dans le cadre de la FIRA. Vous voulez peut-être redire un mot du sens que vous donnez à ces partenariats et pourquoi ils sont extrêmement importants pour la FIRA. Et puis, nous donnerons la parole aux partenaires après.
Oui, ces partenariats pour nous sont extrêmement importants et puisque ce partenariat a été décidé, je tenais beaucoup à ce que l'on puisse vous les présenter. Ils ont un triple intérêt. Tout d'abord, cela élargit beaucoup le cercle de nos partenaires historiques. Quand la FIRA a été créée, elle a été aidée, accompagnée par toute une série d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, avant tout. Et nous savions très bien que nous avions vocation à avoir d'autres partenaires. Et ces nouveaux partenaires, les voilà. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, nous l'avons dit, c'est qu'il s'agisse de l'accès aux soins, qu'il s'agisse du vieillissement, qu'il s'agisse de la ruralité profonde, ou bien qu'il s'agisse de la très grande précarité, ce sont 4 partenariats sur ce qui est notre objectif, ne pas rajouter du handicap au handicap, éviter la double peine à tout prix, faire le mieux que nous le pouvons pour le handicap lui-même, mais en tout cas, ne pas laisser ce handicap être épidémique. Et grâce à cette collaboration, c'est vraiment ce que nous allons essayer de faire. Donc nous sommes, la FIRA, le partenaire le plus heureux du monde ce soir.
Merci. Alors, je vais commencer peut-être avec Sylvie. Je vois pas. Ah. Sylvie Kaczmarek. J'ai triché, j'avais regardé sur Google. Sylvie, alors vous représentez la Fondation Handicap Malakoff Médéric. Et donc, vous êtes là ce soir pour l'appel à projet handicap et accès aux soins. Et vous allez nous dire un mot de en quoi cette thématique vous correspond-elle précisément dans le cadre de la Fondation Handicap Malakoff Médéric. Et pourquoi, justement, avoir choisi de vous lancer dans un partenariat qui concerne de la recherche appliquée?
Bonjour à tous. Donc, je vous remercie pour votre invitation. Donc, je suis effectivement la directrice de projet de la Fondation Malakoff Médéric Handicap. L'autre fondation est une jeune fondation qui a été créée en 2013. C'est la fondation d'entreprise du groupe Malakoff Médéric. Et nous avons 2 axes d'action. Ce sont l'accès à l'emploi des personnes handicapées et l'accès à la santé. Les projets que nous accompagnons sont 100% handicap, donc sont complètement dédiés au handicap. Je vous ai mis, pour pas être trop long, qu'on soit percutant, donc je vous ai mis la plaquette dans votre pochette. Si vous souhaitez connaître nos projets, tout est en ligne sur notre site internet. C'est donc tout naturellement, lorsque la FIRA nous a sollicité dans le cadre d'un appel à projet sur la recherche appliquée en santé, que nous avons, notre conseil d'administration a donné son accord pour un partenariat dans ce cadre-là.
Alors, est-ce qu'on va plutôt finir avec vous parce que voilà. Ça, non, mais on va continuer avec vous, pardon, mais
On non, 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 non.
Non, mais bon, c'est vrai que j'aime bien qu'on termine à l'heure. Je suis un peu psychorigide, chacun son truc. Non, quand même, encore un mot avec vous. Effectivement, on parle d'un partenariat dans le cadre de la recherche appliquée. Et puis, il y a des axes prioritaires qui ont été définis dans le cadre d'un appel à projet thématique. Mais est-ce que là-dessus, déjà, vous avez peut-être des idées, des exemples de recherche de besoins que vous avez déjà identifiés et qui pourraient rentrer dans cette thématique, ou nous dire un mot, si ce n'est sinon, des axes prioritaires et un peu de vers là où ça pourrait s'orienter, parce que rien n'est décidé à ce jour, les projets n'ont pas été choisis, mais en tout cas, il y a déjà des choses, on va dire, qui vous semblent importantes et qui pourraient être traitées dans le cadre de la recherche.
Alors, nous, notre objectif, c'est de répondre, comme disait Axel tout à l'heure, de répondre aux besoins non satisfaits des personnes handicapées. Et donc, l'idée d'être à cette tribune, c'est de partager avec vous, en avant-première, un projet que nous venons de finaliser, qui a consisté à améliorer l'accessibilité des personnes handicapées dans les centres de santé. Donc, c'est un travail sur 3 ans qui vient d'aboutir à... Alors, j'ai juste présenté un exemplaire. Donc, c'est un gros classeur qui s'appelle « Bien vivre ensemble son centre de santé ». Et l'idée, c'est de travailler sur l'ensemble de la chaîne d'accessibilité, c'est-à-dire de partir très en amont, c'est-à-dire comment on prend rendez-vous, comment ça se passe, et d'aller jusqu'au bout de la chaîne, c'est-à-dire de comprendre le diagnostic. C'est-à-dire on a travaillé sur toute la chaîne d'accessibilité, quel que soit le handicap. Donc c'est un énorme travail qui vient d'être terminé, qui sera en ligne très bientôt sur notre site internet, que vous pourrez télécharger. On a pris l'idée de faire un classeur, c'est-à-dire que chacun, en fonction de sa thématique, de ses besoins, pourra piocher tout un ensemble de conseils pratiques. Et je vous ai mis dans votre pochette également un triptyque qui résume sous une forme assez originale le contenu du classeur. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé sur tous les types de handicap et on a bien sûr pas oublié notamment les personnes handicapées psychiques, les personnes handicapées mentales. Voilà, donc tout un travail qui avait été... sur lequel j'avais été sensibilisée il y a très très longtemps parce que j'avais travaillé à l'UNAPI, notamment avec Monsieur Boé, ici présent. Voilà, donc on n'a oublié personne.
Oui, simplement un mot et un hommage que nous allons rendre, c'est que parmi les membres du conseil d'administration de la FIRA historique, il y a Pascal Jacob. Et Pascal Jacob, comme vous le savez, et l'initiateur, l'instigateur, le maître d'œuvre de la charte Romain Jacob, dont la focalisation est l'amélioration de l'accès aux soins des personnes handicapées. C'est justement un des cas où il y a évidemment la double peine. Ils ont un handicap et ils sont mal soignés pour toutes les maladies qui n'ont rien à voir avec leur handicap. C'est pas possible. Donc, on rend hommage évidemment à Romain Jacob. Et puis à son papa, Pascal Jacob, on les applaudit si vous voulez bien.
Ils se débrouillent, ils en ont plein. Vous partagerez. Oui, alors il marche, il faut les mettre effectivement bien près, très près de votre bouche pour qu'on entende mieux. Bon, ben alors, puisque Brigitte, vous avez pris le micro, ça tombe bien, Brigitte Duboc, vous êtes là pour représenter Solidel et aussi Laser Emploi dans le cadre de l'appel à projet handicap et milieu rural. Alors, un peu les mêmes questions pour vous. Quelle a été l'importance pour vous de choisir ce type de projet de recherche avec la FIRA? Pourquoi avoir voulu vous lancer là-dedans aussi? Vous avez déjà, avec Solidel, une solide expertise dans le champ du handicap et du milieu rural. Vous cherchez déjà, vous faites déjà de la recherche, vous trouvez des solutions concrètes pour aider les personnes handicapées. Mais qu'est-ce que vous avez voulu faire en plus avec ce partenariat avec la FIRA?
Bah, quand on s'est rencontrés en fait, avec Axel Kahn à la caisse centrale de MSA, ça nous a parlé parce que typiquement, la recherche appliquée, ça aboutit sur des solutions concrètes. Et je crois qu'on est vraiment très en manque de solutions concrètes. Moi, j'interviens pour je parle au nom de Solidel et de Laser aujourd'hui. La mutualité sociale agricole a créé des réseaux associatifs. Alors, la mutualité sociale agricole, c'est la protection sociale du monde agricole. Hein, voilà. On a toujours été très très préoccupés depuis toujours en MSA, donc la MSA, par le handicap et principalement par le handicap psychique et le handicap mental. Alors pourquoi ? Parce que en fait, si vous voulez, les territoires ruraux, ça a ses faiblesses, mais ça a, on en a parlé tout à l'heure, l'éloignement, l'isolement, etc. Mais ça a énormément d'atouts en termes d'employabilité et en termes d'insertion professionnelle pour des personnes en situation de handicap psychique et mental. Parce que on a mis en place, et c'est pour cette raison que la Mutualité sociale a créé ces deux réseaux associatifs que sont Solidel et Laser. Solidel est un réseau qui fédère une soixantaine d'ESAT, hein, les ESAT ce sont les anciens CAT, qui sont des ESAT agricoles, et Laser est une association qui fédère des structures d'insertion par l'activité économique, et également elle gère aussi des services à la personne pour accompagner les personnes. Donc, on a, si vous voulez, ce qui est intéressant aussi, et c'est pour ça que ça a été créé, c'est que il y a quand même, sur les territoires ruraux, l'activité agricole elle-même, elle est vraiment très adaptée à ce type de handicap, déjà. Et par ailleurs, c'est la diversité des travaux agricoles qui fait qu'on a cette possibilité d'offre d'emploi pour des personnes en situation de handicap. Alors maintenant, la recherche appliquée, nous, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on a dans ces personnes, nous, on accompagne beaucoup les ESAT. Et on accompagne aussi, on est très proche aussi des personnes qui sont dans les ESAT, parce qu'on descend, on va dans les établissements. Et moi, si vous voulez, je suis médecin de formation, donc ce qui m'a beaucoup importé, c'était essayer évidemment de faire de la prévention auprès de ces personnes, parce que déjà l'accès aux soins est très compliqué, mais alors l'accès à la prévention, c'est encore plus compliqué, je pense, on n'en parle même pas. On attend que les gens soient malades pour les soigner, mais on ne fait même pas de prévention parce que beaucoup se disent oh ben c'est finalement pas la peine, c'est difficile à comprendre, etc. Et c'est pas vrai. Nous, alors, Solidel a créé des outils. On est à l'initiative d'outils pratiques, un peu comme peut-être on a fait de la recherche appliquée sans le savoir, d'outils très pratiques pour justement des supports avec des supports adaptés, parce que dans les ESAT, il y a aussi des personnes qui ne savent pas lire, qui ne comprennent pas tout. Donc on a des supports adaptés pour faire de la prévention. Alors on a commencé par la nutrition, on travaille beaucoup sur l'hygiène dentaire. Et là aujourd'hui, alors ce qui vraiment, on va travailler sur un domaine, et peut-être que vous pourrez nous aider, parce que c'est un domaine extrêmement compliqué. On a remarqué dans ces établissements, depuis un certain temps, une grande montée des pratiques addictives. Et pas simplement alcool, tabac, mais également des toxiques, hein, des produits toxiques. On voudrait travailler là-dessus, ça c'est clair. C'est certainement quelque chose là, qui est difficile, beaucoup plus difficile que les autres projets, les autres actions de prévention qu'on peut monter. On a fait aussi d'autres choses qui sont intéressantes pour ces personnes, parce que la préoccupation majeure que nous avons, c'est d'éviter que ces personnes vivent des ruptures, aient le moins de ruptures possible dans leur parcours de vie, qui est un parcours en général complexe, qui n'est jamais linéaire. Et ces parcours de vie, ils sont entravés par des situations, des troubles de la santé, des hospitalisations, des addictions, un départ à la retraite, la perte du logement, etc. Donc il y a énormément de recherches appliquées qu'on pourrait imaginer auprès de ces personnes. Voilà.
On espère que dans les projets de recherche qui verront le jour, certains concerneront l'addiction, oui. Pourquoi pas,
j'espère, mais rejoindront ces problématiques. D'autres choses aussi, d'autres choses.
Voilà. Là aussi, il y a des axes de priorité.
Alors là, on a beaucoup de besoins à exprimer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Mais tout le monde en a. Non, et en plus, il y a des axes prioritaires de recherche qui ont été aussi définis dans le cadre de votre appel à projet. Alors, on ne va pas les détailler ici, mais c'est vrai, ils concernent tous principalement enfin, le handicap mental et psychique, vous l'avez dit, avec des problématiques très liées à la ruralité. Et je vois que vous voulez reprendre la parole, mais si vous la reprenez...
Je la lâcherai.
Vous la reprenez très court.
Non, c'était juste pour dire quand même que notre appel à projet concernait surtout l'emploi, le maintien en emploi et surtout voir comment on pourrait trouver des passerelles pour permettre à certaines personnes de passer du milieu protégé de travail au milieu ordinaire. Voilà.
Merci à vous. À côté de... C'est Nicolas ?
C'est ça.
Et Céline, alors du coup, j'imagine. Voilà. Alors, Nicolas et Céline, Nicolas Benetro de la Fondation MAF Assurance et Céline Poulet de la Croix-Rouge française. Alors, si la Croix-Rouge a l'expertise de terrain et de métier, la Fondation MAF a, elle, un conseil scientifique qui est consulté sur les questions de handicap. Et je vais m'adresser donc à tous les deux, Nicolas et Céline. Vos deux structures sont complémentaires dans le cadre de cet appel à projet. Et pour autant, du coup, est-ce que le partenariat avec la FIRA a le même sens pour chacune de vos structures, pour chacun de vous ? Alors, qui veut commencer pour nous dire en quoi ça l'intéresse de faire partie de cet appel à projet ? Ne vous battez pas, mais le temps passe. Non, moi, je dis ça, c'est...
Je sais pas.
Vous... Non, mais j'y vais. Ah ben... Non, mais bon, je vous vois embêter donc sur la question. C'est un peu embêtant quand même. Non, évidemment, comment dire, c'est pour nous extrêmement important d'être avec la FIRA qu'on connaît depuis des années sur l'ensemble des actions qui sont menées. C'est important parce qu'aujourd'hui, en fait, on parle très peu en fait de la grande précarité et notamment dans le champ du handicap. Tous les jours, en fait, à la Croix-Rouge française, il y a des maraudes qui se réalisent par les unités locales, et par les bénévoles de la Croix-Rouge française dans toutes les rues de France. Et on s'aperçoit, en fait, que, la grande précarité est bien à nos portes et que parmi les personnes qui sont en grande précarité, de sources convergentes, on a près de 50% de personnes qui sont en situation de handicap. Alors, qu'est-ce qui amène, les personnes en situation de handicap dans la rue ? Est-ce que c'est la grande précarité qui recrée du, est facteur de handicap ? Alors, les chiffres clés, vous les connaissez tous, ici, on est dans un champ que vous connaissez parfaitement, 19% de familles monoparentales, dans le champ du handicap, c'est-à-dire que aussi l'arrivée d'un enfant en situation de handicap peut apporter des facteurs d'appauvrissement d'une famille. On n'en parle jamais aujourd'hui de ces facteurs-là, puisqu'on va parler, évidemment, des personnes qui sont dans la rue, c'est très important, mais il faut aussi parler des enfants qui sont aussi aujourd'hui dans une grande précarité. Alors, une recherche appliquée, pour nous, c'est extrêmement important. Évidemment, connaître les causes, c'est important, mais c'est surtout savoir quelles sont les actions qu'on a menées. Je ne dis pas qu'on ne fait rien, évidemment. On ne va pas dire qu'à la Croix-Rouge française, on ne fait rien. Sauf qu'aujourd'hui, on est encore une fois avec des politiques publiques en silo. Et donc, quand on travaille sur l'exclusion, on ne travaille pas sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Ce sont des secteurs qui ne se connaissent pas. Les foyers d'hébergement où on voit débarquer des personnes en situation de handicap qui sortent directement de la psychiatrie avec leurs médicaments dans les poches. Et je caricature à peine. Comment fait-on dans les foyers d'hébergement qui ne sont pas du tout structurés pour ça ? Donc en fait, cette grande précarité, qui est aussi une grande précarité, une détresse et une souffrance importante, on en parle très peu dans le débat public, parce qu'on ne sait pas par quel bout l'attraper. Et cette recherche appliquée est extrêmement importante, parce qu'elle amène à nous des acteurs différents qui vont devoir travailler ensemble. Et évidemment, je ne dirai jamais que la personne va être au cœur. Elle ne sera pas au cœur, elle sera acteur. Ils ont fait une démonstration extraordinaire. Ça ne peut toucher que si la personne, elle est concernée par la recherche et qu'elle est actrice de sa propre recherche. Sinon, on ne trouvera pas les solutions, puisque sinon, on les aurait trouvées à l'heure d'aujourd'hui.
Bon, tout a été dit. Il n'y a plus rien à ajouter.
Non, nous, alors très très rapidement, pour ceux, celles et ceux qui ne connaissent pas la Fondation MAF, et je pense que c'est la plus grande majorité parce qu'on n'a pas la notoriété et l'aura de la Croix-Rouge.
Non plus, on ne connaissait pas en fait.
Ben, ça tombe bien, c'est l'occasion de se rencontrer. Donc la Fondation MAF intervient depuis 20 ans en fait en finançant des projets dans le domaine du handicap, exactement sur le modèle en fait des appels à projets de la FIRA. Et en fait, au sein du conseil scientifique dont vous avez parlé, qui réunit des médecins de médecine de réadaptation, de personnes en situation de handicap, des familles, il y a toujours eu, et je pense que ça c'est depuis la genèse du conseil, on ne peut pas en parler de situation de handicap sans évoquer la précarité. Et inversement, c'est ce que vous avez très bien dit, la précarité est un des facteurs déclenchants d'une situation de handicap ou un facteur aggravant souvent de la situation de handicap, Axel Kahn l'a rappelé. Donc pour nous, quand on nous a proposé cet appel à projet, ça a été une évidence de pouvoir contribuer. Et une nouvelle fois, je pense que ça tombe plutôt bien parce qu'on va réunir deux acteurs qui sont chacun, je pense, dans leur domaine avec un niveau d'expertise qui fait qu'on espère avoir de très beaux projets. Et puis, en fait, nous, dans l'absolu, il y a trois de ces appels à projets qui nous intéressaient. Parce que l'accès aux soins, la grande précarité et le vieillissement sont évidemment, on ne va pas le rappeler, des causes, des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Mais c'est surtout qu'il y a forcément des interactions et des interdépendances. Et que la précarité amenant une situation de handicap, l'avancée en âge de la population, et là je parle de la population globale et de la population qui est en situation de handicap, va forcément avoir aussi des impacts sur la précarité, sur la situation de handicap. Et du coup, je formule déjà des vœux, même si on n'a pas encore eu de projets qui ont été présentés. Je pense que dans les 2-3 années à venir, lorsque nous allons sélectionner des projets, que nous allons accompagner ces projets, ça aurait beaucoup de sens de pouvoir partager les résultats de ces différentes recherches et des applications pratiques qui seront sorties de l'accès aux soins, de l'appel à projets sur la grande précarité et du vieillissement. Et du reste, plutôt que de vieillissement, je pense que la terminologie d'avancer en âge, tout à l'heure, et j'ai apprécié, moi je suis pareil, parler du handicap, le handicap me gêne, l'handicapé me gêne, et je trouve que le terme de vieillissement, pareil, Patrick Gouaille, ici présent, a présidé à une commission, très très bon rapport sur le sujet, où tout est dedans, et je dirais qu'en repartant de ce rapport, ce que l'on est en train de faire avec la Fondation MAF, on va essayer de pouvoir travailler aussi sur le sujet du coup de l'avancée en âge de la population.
En tout cas, si plusieurs de ces projets vous intéressent, la Fondation MAF peut donner 3 fois plus.
Écoutez, on peut en reparler pendant le cocktail.
Voilà. Merci à tous les deux. Merci. Et puis un dernier appel à projet avec là aussi le handicap, mais cette fois-ci handicap justement. Et alors je dis handicap et vieillissement, deux mots que Nicolas vous n'aimez pas, mais c'est dans le titre. Alors pardon. Voilà.
Simplement un point, mais on ne va pas discuter. Ça n'est pas l'avancée en âge qui crée un handicap, c'est le vieillissement.
C'est bon. Alors, le vieillissement, un partenariat au sein du partenariat aussi, puisque nous avons avec nous la représentante du CCH, du Comité National Coordination Action Handicap, qui est partenaire de longue date de la FIRA depuis ses débuts. Et nous accueillons aussi pour Clésia Frédéric Bernard. Je ne vous ai pas cité, c'est Karine Reverte qui est là pour le CCH. Et donc Frédéric Bernard pour Clésia. Tout ce petit monde est très lié, très complémentaire. Je vous donne la parole tout de suite. Vous allez nous dire en quoi vous êtes complémentaires, en quoi ça fait du sens aussi de vous avoir tous les deux sur ce partenariat.
Alors, merci. Sur le vieillissement, peut-être sur la thématique qui a fait en effet qu'on a souhaité avec Clésia travailler ensemble. Alors, c'est vrai qu'on en parle peut-être un peu plus que de la précarité. C'est peut-être 20 ans qu'on en parle. Je citerai évidemment le rapport sur l'avancée en âge de Patrick Goé, qui nous a donné enfin quelques chiffres, juste pour vous donner donc vos chiffres, Patrick. Entre 650 000 et 800 000 personnes handicapées en France sont en situation de vieillissement. Alors, le vieillissement pour une personne en situation de handicap, on considère que c'est à partir de 40-45 ans. Donc voilà, faut aussi relativiser l'âge. Mais ça concerne un nombre important de personnes. On en parle depuis une vingtaine d'années. Mais on a trouvé qu'on n'anticipait pas forcément assez les réponses à apporter aux personnes vieillissantes. Et notamment, on n'a pas forcément beaucoup pris en compte leur parole non plus. Je rejoins ce que disait Céline sur la parole de la personne qui est fondamentale dans une recherche appliquée. Et c'est vrai qu'avec Clésia, je vais laisser la parole au directeur de l'action sociale pour en parler, et la FIRA évidemment, on s'est dit que ce serait un sujet sur lequel on manque de recherche appliquée. Nous, on soutient beaucoup de projets, on en voit beaucoup en France développer, mais il n'y a pas de recherche appliquée vraiment scientifique et sérieuse. On a très peu de cohortes, de personnes. Voilà, c'est difficile d'avoir des chiffres, à part sur certaines populations comme... par exemple, des personnes qui ont une trisomie 21, où là, c'est un peu plus facile de faire des cohortes d'études scientifiques, où on a vu, par exemple, que 72% des personnes vieillissantes avec une trisomie 21 développent une maladie d'Alzheimer. Donc voilà, on a très peu de choses, à part ces quelques chiffres. Et on s'est dit qu'il y avait des sujets qui étaient importants, parce que le vieillissement, l'avancée en âge, ça impacte la vie quotidienne, sur tous les champs, les loisirs, l'habitat, les nouvelles technologies, l'accès aux soins, évidemment. Donc voilà, ça nous semblait être un sujet important pour la recherche appliquée, mais je vais laisser Frédéric en parler sur pourquoi Clésia a souhaité travailler avec moi.
On m'entend ? Oui, alors tu as déjà dit beaucoup de choses. Bon, nous, Clésia, peut-être très rapidement, on est un groupe de protection sociale, mais aussi une caisse de retraite. Donc en fait, on gère des fonds sociaux à une caisse de retraite, c'est-à-dire que historiquement et depuis toujours, l'action sociale de Clésia travaille sur la fragilité. Et donc en particulier le champ du handicap. Et donc effectivement, et vous le voyez dans notre baseline, hein, nous on parle de protection et d'innovation sociale. Je pense que la recherche appliquée aujourd'hui est pour nous utile et un vrai levier pour faire avancer les choses, et en particulier sur le vieillissement, parce que on le disait à l'instant, on vieillit, la personne handicapée vieillit aussi. N'oublions pas les proches aidants. Hein, y a un vrai sujet autour des proches aidants, mais je vais pas développer. Effectivement, on a été séduit par le projet qui nous semble extrêmement important. Alors, tout simplement parce que on le voit nous depuis longtemps. On est on constate finalement que sur ces sujets, il y a très peu de choses. La recherche scientifique sérieuse, effectivement, n'existe pas. Et il nous semble très important d'aujourd'hui d'œuvrer sur ce champ pour répondre aux besoins futurs, hein, qui vont être extrêmement importants. Il y aura des problèmes aussi de financement et surtout de logement. Hein. Les solutions aujourd'hui de logement ne sont pas adaptées, et surtout il faudra penser au logement futur, en particulier pour les personnes en situation de handicap. Nous travaillons beaucoup sur le sujet, et je pense que ce sont deux sujets de recherche qui nous semblent extrêmement importants, compte tenu des enjeux sociétaux actuels. Voilà ce que je pouvais rajouter. J'avais 3 minutes, donc j'ai tenu mes 3 minutes.
Alors je tiens à m'excuser au nom de la FIRA. On voulait à la fois vous mettre à l'honneur et à la fois, effectivement, c'est court. Vous êtes aussi nombreux, mais on voulait que vous soyez tous là. Donc merci infiniment d'être venus. Et même si on vous a pas laissé beaucoup la parole, on aura l'occasion de vous redonner la parole, j'espère, et en tout cas de reparler et de vos partenariats et des appels à projets et de vous.